Notre invité ce matin sur l'antenne d'Alpe 1 dans le 8:30, Pascal Boyer, bonjour.
Bonjour.
Député La République En Marche dans les Hautes-Alpes. Tout d'abord, le conflit en Ukraine, c'est quelque chose qui vous inquiète aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous interpellent et nous disent, nous, ce qu'on craint, alors hormis le pouvoir d'achat, on va y revenir, mais c'est surtout l'implication de la France. Vers quoi va-t-on aller ?
Alors effectivement, d'abord, je condamne l'invasion russe qui porte atteinte à la paix, à la stabilité en Europe et au droit international et aux valeurs humanitaires. Je salue déjà aussi le courage du peuple ukrainien, des hommes qui sont restés pour défendre leur pays et celles et ceux qui sont obligés de quitter leur pays pour se mettre en sécurité dans des pays qui, dans un grand élan de solidarité, sont prêts à les accueillir.
La France est prête, c'est ce qui a été dit hier, 200 000 places qui ont été recensées en France.
Tout à fait, nous sommes prêts, le ministère, il y a une cellule interministérielle qui est mise en place, qui a été déclenchée pour accueillir toutes ces personnes qui sont en grande fragilité, bien évidemment. Et donc, tout est déclenché pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions, avec une décentralisation, on va dire, avec le couple préfet élu, puisque c'est au niveau des territoires que tous ces accueils d'hébergement se feront.
Se mettent en place. Mmh. Aujourd'hui, quelle est la place des députés dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine ? Les députés français.
La place des députés, c'est déjà de faire le relais, comme je l'ai fait il y a quelques jours, entre les élus, la préfecture, les ministères, bien évidemment pour faire remonter tous les problèmes qui peuvent arriver. Notamment, vous voyez, on a fait le relais sur des personnes en Ukraine qui, au niveau de leur assurance de voiture, avaient des soucis parce que ça n'était pas valable dans l'espace Schengen. Mmh. Et donc, vous voyez, notre action, ça a été de faire relayer ça, enfin de relayer ça auprès des ministres concernés. Donc, nous sommes, comme le rôle d'un député, des personnes qui relayons tous les retours, comme nous l'avons fait aussi pendant la crise Covid.
Des militaires français sont partis, alors non pas au combat, mais en position défensive dans les pays membres de l'OTAN. C'est le cas notamment de troupes du 4e régiment de chasseurs de Gap. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une globalisation du conflit à l'échelle mondiale aujourd'hui ?
Alors moi déjà, je salue nos militaires, comme je salue tous les Walpins qui souhaitent s'organiser pour l'accueil des réfugiés. Et je salue nos militaires, qui sont partis il y a déjà quelques jours. Et je salue aussi les familles, parce que c'est très très dur pour elles, puisque le départ s'est fait dans la précipitation. Craindre le conflit mondial, pour l'instant nous n'en sommes pas là, puisque justement la France et les pays de l'OTAN ne veulent pas et ne peuvent pas rentrer en guerre face à la Russie, puisque l'Ukraine n'est pas un pays qui appartient à l'OTAN et qui n'est pas un pays qui appartient à l'Union européenne.
Donc, et qui pour l'instant n'en fera pas partie, ça a été justement voté hier. Il y a en effet une procédure d'adhésion, mais en tout cas elle ne sera pas accélérée.
Elle n'est pas accélérée parce que ça n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire pour ça que la porte n'est pas ouverte pour de prochaines, pour une prochaine demande. Mais actuellement, l'Europe ne peut pas le faire puisque la procédure accélérée n'existe pas. Donc nous sommes là, effectivement nous avons envoyé des troupes sur des pays limitrophes de l'Ukraine, parce qu'effectivement, après, il y a une défense des pays de l'OTAN, si jamais il y avait une attaque de la Russie.
Vous craignez que la Russie décide d'étendre finalement cette invasion, ou vous pensez que Vladimir Poutine n'est peut-être pas aussi, belligérant, ce n'est pas forcément le mot, mais en tout cas n'est peut-être pas aussi borné que ça?
Vous savez, moi je faisais partie des personnes qui ne croyaient pas à ce que Vladimir Poutine envahisse l'Ukraine.
Mais même le président ukrainien n'y croyait pas, il ne pensait pas que ça irait aussi loin.
Exactement, le président de la République française a fait tout ce qu'il a pu, et président de l'Union européenne bien évidemment, a fait tout ce qu'il a pu au niveau diplomatique pour empêcher ce drame humanitaire. Donc, on n'est pas non plus dans la tête de Vladimir Poutine, ouais. Et on ne sait pas du tout jusqu'où il peut aller. Mais effectivement, le fait d'avoir mis des troupes protège. L'arme nucléaire aussi nous protège contre... c'est une arme de dissuasion et nous sommes protégés pour le moment avec tout cela. Mais effectivement, on ne sait pas si le président Vladimir Poutine va envahir la Moldavie. On n'en sait rien. On ne sait
pas Géorgie
jusqu'où et la Géorgie et on ne sait pas jusqu'où ça il peut aller. Mais l'essentiel, c'est de stopper déjà les combats et d'arrêter cette guerre en Ukraine.
Ce qui n'est pas le cas. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui demandent l'arrêt de ces combats, un cessez-le-feu. Il y a des mobilisations qui auront lieu d'ailleurs dans les Alpes du Sud ce vendredi et ce samedi par des groupes, et notamment le groupe pour la paix dans les Alpes du Sud, qui appelle à ce qu'on sorte de l'OTAN, à ce qu'on arrive à la dissolution de l'OTAN et à ce qu'on applique véritablement le traité Tian. Alors, je vais revenir dans l'ordre. Êtes-vous favorable à ce que l'OTAN soit dissoute et à ce qu'on n'en fasse plus partie ?
Alors, on est dans l'OTAN et on voit bien que l'OTAN...
Même dans le commandement intégré.
Oui, intégré de l'OTAN. On voit bien que la France a une part très importante et une mission très importante au sein de l'OTAN. Actuellement, si nous n'avions pas l'OTAN, je ne sais pas où nous en serions. Donc, je pense que en période de crise, comme nous vivons, demander à ce que la France sorte de l'OTAN, ça veut dire quoi et pour quelle raison?
Ça veut dire ne plus être protégée?
Ben oui, c'est tout à fait ça.
Et le traité Tian, je reviens là-dessus, l'interdiction des armes nucléaires. Voilà, c'est ce fameux traité qui entre en vigueur le 22 janvier 2021. Certains aujourd'hui appellent à ce qu'il soit véritablement appliqué en France, c'est-à-dire que finalement qu'on se dépossède de l'arme nucléaire et que tous ceux qui l'ont ratifié se dépossèdent de l'arme nucléaire. Vous dites aujourd'hui l'arme nucléaire, c'est une protection, c'est une dissuasion.
Nous le voyons actuellement. Alors bien sûr que dans un pays de bisounours, bien sûr personne ne voudrait avoir l'arme nucléaire. Mais nous nous rendons bien compte qu'actuellement, si nous n'avions pas l'arme nucléaire, pareil, où en serions-nous ?
Alors, Emmanuel Macron, parlons des présidentielles. Nous sommes à quelques jours de ces échéances électorales. Emmanuel Macron est candidat, ça y est, il l'a dit la semaine dernière, il l'a écrit dans une lettre diffusée auprès de la PQR. Et son programme commence à se dessiner progressivement avec cette fameuse... réforme de la retraite qu'il n'a pas réussi à mettre en œuvre pour ce mandat. Réforme de la retraite et la passer progressivement à 65 ans. Alors, il reviendrait sur le système à points qui a été considéré comme une véritable usine à gaz, très contestée par les syndicats. Et il avance aussi une autre idée, c'est cette fameuse retraite minimum à 1100 euros. Finalement, là, Emmanuel Macron, il est en train de faire quoi ? D'un côté, de... convenir à la droite avec la retraite à 65 ans, que l'on retrouve chez Valérie Pécresse, et en même temps convenir à la gauche avec une retraite minimum de 1100 euros?
Alors, effectivement, le président de la République annonce les parties de ses programmes au fur et à mesure. L'âge minimum de la retraite repoussé à 65 ans, c'est aussi, il faut voir ça d'une façon globale, et il faut voir que si nous voulons financer notre système de retraite, notre système de santé, notre système éducatif, nous devons travailler plus pour gagner plus.
L'effort commun.
Et un effort commun, un effort de solidarité. Et c'est pour ça qu'il y aurait il y a une proposition de la part du président d'augmenter le nombre d'années cotisées.
Et puis il y a eu la crise sanitaire, mais la crise sanitaire a coûté cher. Il y a eu le plan de relance, mais tout ça, il faut le financer aujourd'hui. Et pour parvenir à l'équilibre, c'est obligatoire de rallonger la retraite. Tous ceux qui disent, et notamment Jean-Luc Mélenchon qui dit aujourd'hui, moi la retraite, je la referai passer à 60 ans, c'est irréalisable.
Il y a le plan de relance à financer, bien évidemment, mais c'est pas la sortie du Covid qui est à financer. Il faut voir aussi sur du très long terme. Nous voyons que l'économie française est bien repartie. Donc c'est pas là-dessus que l'inquiétude se pose. L'inquiétude se pose, c'est aussi sur le financement de la prise en charge de l'autonomie et du grand âge aussi. Actuellement, si la réforme n'a pas été mise en place et votée au sein de cette au cours de cette mandature, c'est parce que il y manque un financement pour pouvoir boucler le budget. Donc effectivement, on a besoin de maintenir les services, de maintenir notre modèle social en France, mais à côté de ça, comment le financer en augmentant l'âge de la retraite.
Donc une retraite à 60 ans, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas possible.
Ça ne serait pas tenable. Ça n'est pas possible et ça n'est pas tenable. Et par contre, en contrepartie, jusqu'à présent, nous avions annoncé 1 000 euros minimum retraite pour une retraite complète. Attention, hein, entendons-nous bien. Là, nous montons à 1 100 euros. Donc, je pense que c'est 100 euros supplémentaires qui peuvent permettre à des personnes. Bien sûr, on va vous dire que c'est 100 euros par mois. Mais 100 euros par mois, ça fait 1 200 euros par an. Et ça peut... Depuis le temps que nous le demandions, qu'on nous le demandait, bien sûr, ça n'était pas tenable comme ça. On ne pouvait pas le réaliser, le 1 000 euros avant d'avoir retravaillé cette réforme des retraites. Je l'ai demandé moi-même au ministre Gérald Darmanin, qui m'a dit ça n'est pas tenable. Il faut retravailler tout ça dans notre système.
Le pouvoir d'achat fera partie et fait déjà partie des préoccupations principales des Français aujourd'hui, notamment face au conflit russo-ukrainien. Quelles propositions devront être mises sur la table et très rapidement, parce que c'est ça que demandent aujourd'hui les Français, du pouvoir d'achat immédiat.
Alors, on va revenir sur votre question. Quel est le rôle des députés dans tout cela? Eh bien, effectivement, c'est à nous aussi de faire remonter des territoires au ministère les problématiques de des Français et effectivement les problématiques énergétiques. Bien évidemment, moi, quand je suis, comme on dit, sur le terrain, la première chose qu'on me dit est l'inquiétude, et je comprends très bien parce que nous sommes tous touchés, l'inquiétude, c'est cette hausse du pétrole pour les personnes qui vont travailler, notamment. Et donc, c'est à nous de faire remonter, c'est à nous de pousser les ministres et surtout Bercy pour prendre des mesures. Les mesures doivent être prises rapidement, bien évidemment. Nous n'aurons pas pour le moment besoin d'aller remonter à l'Assemblée pour voter, parce que normalement, dans le projet de loi de finances 2022, il y a une cagnotte, une réserve qui permettrait de tenir. Mais
Elle serait distribuée comment, cette cagnotte? Pardon, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu déjà des chèques énergie qui ont été distribués. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont être mises en place rapidement?
Alors, oui, normalement, Bercy travaille dessus. Les mesures, nous ne les connaissons pas encore et je ne pourrais donc pas vous les donner. Mais effectivement, il y a une prise en considération, une prise en compte de cette hausse de l'énergie, du pétrole et aussi du gaz. Et aussi, il y a un travail qui est fait au niveau européen sur, modifier le marché de l'électricité. On a vu que avec cette crise, enfin la crise actuelle, c'est un système qui ne tient plus forcément la route.
Est-ce que vous avez encore envie de faire remonter la voix des Hauts-Alpins auprès de l'Assemblée nationale, au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'on sait qu'il y a les présidentielles et forcément après il faudra, si Emmanuel Macron est élu, il faudra qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voulez être de ceux ou celles qui pourraient potentiellement représenter Emmanuel Macron?
Pour l'instant, j'y réfléchis, bien évidemment.
La décision n'est pas prise?
La décision n'est pas encore totalement prise.
Qu'est-ce qui vous retient?
Pour l'instant, vous voyez, une crise, on gère une crise après l'autre. La Covid, maintenant, on se retrouve sur une crise extrêmement dure au niveau humanitaire. On est plutôt sur comment accueillir toutes ces personnes qui sont en grande difficulté que et on est aussi dans la campagne du président de la République.
Vous
bien
aussi,
évidemment.
Vous voulez travailler jusqu'au dernier quart d'heure.
Jusqu'au dernier quart d'heure, exactement.
Mais vous pourriez en tout cas vous présenter, Pascal Boyer.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Pascal Boyer, d'avoir été avec nous ce matin, député La République En Marche dans les Hautes-Alpes. Merci.
Merci.